Radio Prague, les informations.
Leader des partis ODS, Top 09 et Affaires publiques ont décidé de conserver la coalition gouvernementale actuelle. Le ministère de l'Industrie se veut rassurant sur la livraison de pétrole russe. Le ministre de la Défense a distingué 23 résistants contre le communisme. Les partis de la coalition gouvernementale tchèque ont décidé de poursuivre leur collaboration dans le cabinet du Premier ministre Petr Nečas. Une réunion au sommet des trois partis au pouvoir sur l'avenir de la coalition gouvernementale a été convoquée à Prague. Selon l'agence de presse ČTK, les ministres chargés de secteurs économiques se sont également mis d'accord sur la restriction nécessaire pour maintenir le déficit budgétaire dans les années 2013 et 2014 en dessous des 3% du PIB. Ainsi prend fin probablement la crise gouvernementale causée par le plus petit parti de la coalition Affaires publiques qui a menacé de la démission de ses ministres. Le ministère du Commerce et de l'Industrie s'est voulu rassurant sur les craintes d'une pénurie de pétrole suite à l'annonce que l'oléoduc Droujba de la société d'État russe Transneft n'avait de réserve en direction de la République tchèque que pour 3 jours. Des rumeurs apparues la semaine dernière prétendaient que la Russie allait fournir 80% de pétrole en moins à la République tchèque en avril. Ce lundi, Václav Bartuška, un émissaire spécial du gouvernement pour la sécurité énergétique, a déclaré à l'agence Reuters en Russie que la République tchèque n'avait pas été informée d'éventuelles réductions de livraison. Le taux de chômage en République tchèque a baissé en mars par rapport au mois de février et atteint 8,9%. En février, le taux de chômage en Tchéquie avait été encore de 9,2%. En mars, il y avait dans le pays 525 180 chômeurs, c'est-à-dire 16 505 chômeurs de moins qu'en février. Le ministre tchèque de la Défense, Alexandr Vondra, a distingué ce mardi 23 personnes ayant participé au mouvement de résistance contre le régime communiste. Il leur a remis un certificat, un décret, un insigne. Dans 4 cas, il a dû remettre ses distinctions in memoriam aux familles des résistants qui ne sont plus en vie. L'ACTA, accord commercial anti-contrefaçon, devrait être jugé par la Cour constitutionnelle avant d'être ratifié en République tchèque. Une déclaration du ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Martin Kuba. Selon le ministre, certains passages de l'accord pourraient être considérés comme des interventions inadmissibles dans les droits et les libertés des internautes. L'homme d'affaires tchèque Petr Kellner a décidé de faire une donation de plusieurs dizaines de millions de couronnes à l'Institut Václav Klaus. Dans une des rares interviews accordées à la presse, l'homme le plus riche de la République tchèque déclare avoir voulu faire cette donation pour la location à long terme de locaux. D'après lui, les anciens présidents sont des symboles et à ce titre doivent être soutenus par des hommes d'affaires si l'État lui-même ne le fait pas. Météo. Mardi, jour de la fête des Daria, selon le calendrier tchèque, la remontée des températures se confirme après le week-end pascal frileux. Les températures se situent entre 13 et 17 degrés pour les maximales. Le ciel est toutefois couvert sur une majeure partie du pays, à l'exception de l'Est. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Les événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Prague. Ce mardi, près d'une trentaine de personnes seront officiellement reconnues comme anciens combattants contre le communisme. Une distinction qui leur permet également de recevoir une pension au même titre que d'autres anciens résistants. Et puis, la République tchèque s'est qualifiée ce week-end contre la Serbie pour les demi-finales de la Coupe Davis. Privés de leur champion Novak Djokovic, les Serbes n'ont pas fait le poids face à des Tchèques déterminés. Bonne écoute de ce programme. La résistance anticommuniste et sa reconnaissance en tant que telle a longtemps fait débat en République tchèque. Ce mardi, le ministre de la Défense, Alexandr Vondra, doit remettre les premiers certificats reconnaissant à 23 personnes la valeur de leur combat contre le régime totalitaire. Depuis le 17 novembre dernier, soit une date symbolique puisqu'elle est celle de la révolution de velours, est entrée en vigueur la loi sur ce que les Tchèques appellent la troisième résistance, soit la résistance contre le régime communiste. Une loi depuis longtemps demandée par les différents vétérans de cette époque, souvent anciens prisonniers politiques. Une loi qui, 22 ans après la chute du régime communiste, a fini par être rédigée et votée, alors que le principe même d'une résistance anticommuniste active, comparable à celle contre le nazisme, a longtemps fait débat. Or, pour les personnes concernées, cette reconnaissance n'est pas uniquement symbolique, puisque le statut de vétéran va de pair avec des compensations financières et une retraite correspondante. Ainsi donc, cette loi va déterminer qui est un héros et qui ne l'est pas. À l'heure actuelle, le ministère de la Défense a enregistré quelques 3000 demandes d'attestation concernant 1800 personnes directement concernées ainsi que leurs descendants. Seulement, pour les anciens combattants, certaines classifications leur semblent un peu trop restrictives, comme le note Zdeněk Kovařík de la Confédération des prisonniers politiques.
Celui qui distribuait des tracts sous le manteau était un opposant, et celui qui agissait activement était un résistant. Mais cette distinction, nous, à la Confédération des prisonniers politiques, nous ne l'avons jamais voulu.
Jiří Ješka, ancien sénateur ODS, justifie ces classifications par la nécessité d'objectivité.
Il était très compliqué de trouver des critères objectifs. Nous avons essayé de faire au mieux à cet égard.
Ainsi, les personnes ayant participé à la résistance anticommuniste ont désormais droit à une médaille, une indemnité de 100 000 couronnes et une revalorisation de leur retraite. Ceux qui ont résisté les armes à la main bénéficient quant à eux du statut de vétéran de guerre, de soins, d'un supplément à la retraite, d'une allocation pour des séjours thermaux et le droit d'être logé dans un foyer pour anciens combattants. Sont concernés par l'un des deux cas de figure les personnes opposées au régime qui ont fait un séjour en prison ou ont perdu leur emploi pour des raisons politiques, mais aussi les personnes ayant essayé en vain d'émigrer et qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Ce mardi, le ministre de la Défense, Alexander Vondra, distingue 23 personnes ayant été persécutées suite à des actes de résistance contre le régime communiste. La reconnaissance de leur statut d'ancien combattant fait suite à de longues recherches dans les archives qui doivent corroborer les informations données par les personnes concernées. Le cas des frères Machine et de Milan Paumer, qui avaient combattu les armes à la main, le régime a longtemps été tabou en République tchèque. En 2008, le premier ministre tchèque de l'époque, Mirek Topolánek, avait choisi de leur remettre une distinction, une première dans le pays. Une chose est sûre, de nombreuses personnes issues des associations d'anciens combattants estiment que la nouvelle loi et son application arrivent bien tard, surtout pour les compagnons de route décédés depuis le retour du pays à la démocratie. L'équipe de République tchèque de tennis s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis, emmenée par un brillant Tomáš Berdych. Vainqueur de ses deux matchs de simple et du double, sans concéder le moindre set, les Tchèques ont battu la Serbie, privée de Novak Djokovic, 4-1 le week-end dernier à Prague. Comme il y a 3 ans, la République tchèque peut donc rêver d'une nouvelle finale. Mais pour y parvenir, la République tchèque n'aura pas la tâche facile puisqu'elle se déplacera en Argentine en septembre prochain. Guillaume Narguet.
En l'absence de Novak Djokovic, qui avait préféré ne pas participer à la Coupe Davis cette saison, les Tchèques, qui s'appuyaient comme toujours sur Tomáš Berdych et Radek Štěpánek, leurs deux seuls joueurs appartenant à l'élite mondiale, avaient endossé le costume de favori avant le début de la rencontre contre la Serbie. Soutenus par plus de 40 000 spectateurs sur l'ensemble des 3 jours, les Tchèques ont tenu leur rang, prenant ainsi au passage leur revanche sur des Serbes qui les avaient privés de finale avant de remporter le saladier d'argent en 2010. Mais même privée du numéro 1 mondial, la Serbie n'était pas venue à Prague en victime expiatoire, avec Janko Tipsarevic et Viktor Troitski, respectivement 9e et 27e mondiaux. Elle avait même de sérieux arguments à faire valoir. Comme souvent en Coupe Davis ces dernières années, Tomáš Berdych a une nouvelle fois été l'arme fatale des Tchèques, d'abord vainqueur de Viktor Troitski en 3-7 vendredi, donnant ainsi le premier point à son équipe, puis du double avec Radek Štěpánek samedi, lui redonnant ainsi l'avantage après la défaite de Štěpánek contre Tipsarevic vendredi, et enfin de Janko Tipsarevic dimanche. Tomáš Berdych a bien joué son rôle de leader et littéralement offert la qualification à son pays. Sur une terre battue qui n'est pourtant pas sa surface de prédilection, le numéro 7 mondial a ainsi remporté ses 3 matchs sans perdre le moindre set. Et lors du simple décisif contre Tipsarevic dimanche, Tomáš Berdych a pris le dessus sur son adversaire au terme de 3 jeux décisifs en autant de sets. Et ce n'était pas là la moindre de ses satisfactions. Le premier tie-break a été décisif. Le premier set a duré 1h15 et le perdre aurait été dur. Mais je pense que j'ai été solide. Bien sûr, on peut toujours faire mieux et si j'avais profité de quelques opportunités à certains moments, j'aurais peut-être pu me rendre le match plus facile. Mais cela n'en enlève rien à ma satisfaction d'avoir su gérer les 3 jeux décisifs. C'est le plus important. À chaque fois, c'était très serré. Ça s'est joué à 1 ou 2 points et j'en suis d'autant plus heureux. Grâce à un Berdych au sommet de sa forme et à une paire de doubles Berdych-Štěpánek qui a signé sa 11e victoire en 12 matchs en Coupe Davis, les Tchèques retrouvent donc 2 ans après leur défaite à Belgrade les demi-finales de la compétition. Une qualification que savourait le capitaine Jaroslav Navratil. Je pense que c'est un résultat fantastique. Même avec l'avantage de recevoir, on savait que battre la Serbie serait très compliqué. Nous sommes donc très heureux d'atteindre de nouveau les demi-finales, comme en 2009 et en 2010. Ce n'est pas rien, il y a beaucoup de pays avec d'excellents joueurs dans le groupe mondial et beaucoup d'équipes se valent. C'est donc avec beaucoup d'envie que nous aborderons le prochain match contre l'Argentine. Cette demi-finale ne s'annonce cependant pas comme une mince affaire. Avec Juan Martín del Potro et David Nalbandian, l'Argentine, qui a de son côté sorti la très solide Croatie 4-1 en quart de finale, partira favorite et ce d'autant plus qu'elle évoluera devant son public. Mais si Tomáš Berdych se présente en Argentine dans les mêmes dispositions qu'à Prague ce week-end, les Tchèques auront alors toutes les raisons de croire raisonnablement en leur chance de qualification.
On passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission. Avec l'arrivée de nouveaux médias, et notamment d'Internet, la presse écrite connaît des difficultés partout en Europe. Les tirages suivent une tendance à la baisse et les rédactions sont parfois contraintes de réduire leurs effectifs. Dans un tel contexte, il est difficile de trouver un modèle économique viable permettant de satisfaire les lecteurs et d'en séduire de nouveaux. Barbora Osvaldova est responsable du département journalisme à la faculté des sciences humaines de l'Université Charles à Prague. Elle esquisse au micro de Pierre Maignan un bilan de ce paysage médiatique et des nouvelles pratiques journalistiques en République tchèque.
Panorama.
Panorama.
Les chiffres de l'Audit Bureau of Circulation de République tchèque permettent d'établir un constat simple. Les quotidiens tchèques ont vu leur diffusion fortement diminuer en l'espace d'une dizaine d'années. Ainsi, les tirages des 4 principaux journaux d'information tchèques, à savoir Mladá fronta dnes, le front de la jeunesse d'aujourd'hui, Hospodářské noviny, le quotidien de l'économie, Pravo, le droit, et Lidové noviny, le quotidien du peuple, ont souffert d'une baisse de l'ordre de 20 à 40%. La concurrence des quotidiens gratuits et les nouveaux usages liés à Internet expliquent certainement en partie ce relatif déclin. Pourtant, selon Barbora Osvaldova, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure.
Non, tak já jsem teda zastáncem toho, že to noviny přežijí.
Personnellement, je défends le point de vue selon lequel les journaux vont survivre. Internet ne sera pas victorieux. En fait, je pense que de très nombreuses personnes ont besoin dans leur vie quotidienne des journaux papier, et pas seulement les vieilles générations, cela vaut aussi pour les plus jeunes. Cependant, il est vrai que depuis 1990, quand ont commencé à apparaître des journaux indépendants, ceux-ci ont beaucoup changé, et notamment du fait d'Internet.
Tous les grands quotidiens ont désormais un portail Internet au contenu plus ou moins riche. Par exemple, le site du quotidien Pravo est relativement peu étoffé. A l'inverse, avec leurs sites itned.cz et idnes.cz, les journaux Hospodářské noviny et Mladá fronta dnes proposent une actualité en ligne distincte de celle de leur version papier. Deux rédactions différentes, mais en relation constante, sont alors mobilisées. Le site d'information actualnier.cz est d'ailleurs le seul à ne pas être lié à un titre papier. Il semble ainsi aujourd'hui essentiel de disposer d'une version électronique.
Já si myslím, že v podstatě veškeré noviny dneska už své internetové stránky.
Je pense que tous les journaux sérieux ont aujourd'hui leur site internet et qui doivent en avoir un. Les journaux ou même les revues ou magazines qui n'en ont pas voient leur contenu s'appauvrir. Si vous pensiez pouvoir tenir le coup en vous appuyant uniquement sur une version imprimée, les sites internet d'information vous devanceraient car ils sont bien plus réactifs.
Cependant, sur Internet, les informations sont le plus souvent disponibles gratuitement, ce qui pose la question de la viabilité d'un tel modèle économique. À elle seule, la publicité permet-elle d'assurer un financement satisfaisant ?
U nás je to tak, že vlastně ty velké noviny mají internet.
Les grands journaux n'ont pas de problème car leur édition papier permet également de financer leur site internet. Évidemment, cela a un coût important. C'est aussi pour cela que je pense que la publicité seule ne permet pas de financer internet. Nous nous imaginions au milieu des années 90 que les journaux imprimés ne survivraient pas à leur édition en ligne. Or aujourd'hui, il semble que ce scénario ne se réalisera pas.
Ale teď to vypadá, že to tak nebude.
Cependant, Barbora Osvaldova constate que ce nouveau support électronique suppose un nouveau rapport du journaliste à son métier. Il a en effet la possibilité d'actualiser en permanence ses informations.
Když se třeba podíváte na ten takzvaně nejčtenější seriózní.
Si vous prenez le journal le plus lu, qui est Maria Frontanes, il récupère des informations sur Internet et ont leur propre site où ils modifient ces informations au cours de la journée. Et dans leur édition papier, vous trouverez ces informations enrichies de plus de commentaires. On suppose en effet que les gens suivent d'abord l'actualité sur Internet, puis regardent la télévision dans un deuxième temps. Ils ont donc déjà accès aux informations élémentaires grâce au support électronique.
Par ailleurs, alors que la compétition pour être le premier à publier un scoop continue, la réactivité d'un site internet n'est pas sans danger pour la qualité et la viabilité des informations proposées.
Internetoví novináři pracují velmi rychle.
Les journalistes sur Internet travaillent très rapidement. Il y a toujours cette course pour être le premier. Parfois, afin d'être le premier, ils ne vérifient pas leurs informations. Aussi, souvent sur Internet, on considère que les informations ne sont pas forcément véritables à 100%, même si ensuite on va les présenter comme telles. La pratique est la suivante. Quand on découvre une information fausse, on la corrige immédiatement. Ce qui est important au final ici, c'est cet effet de retour. Par exemple, les lecteurs eux-mêmes peuvent écrire pour dire qu'une information est inexacte. J'ai la forte impression qu'Internet conduit à une certaine superficialité et à une modification du travail des journalistes, qui ne prennent parfois pas la peine de vérifier leurs informations. Le téléphone leur suffit, ils ne vont pas sur le terrain.
L'évolution de ces pratiques journalistiques est à mettre en relation avec le nouveau mode de consommation de l'information lié au nouveau support électronique et qui serait, selon Barbora Osvaldova, une consommation plus quantitative que qualitative.
Il y a encore quelque chose, c'est le rapport qu'entretiennent les lecteurs aux informations sur Internet. L'expérience montre que le lecteur veut que l'information soit visible dès la page d'accueil. Il peut ensuite ouvrir une nouvelle page, on va dire qu'il peut cliquer, aller plus loin dans l'information. C'est ce que fait une minorité des lecteurs. C'est pour cela que les nouvelles apparaissent toutes sur la page principale et que peu de monde va plus loin. Les journalistes traitent donc des informations élémentaires de façon élémentaire. Pourtant, la taille d'une page Internet est sans limite, mais malheureusement, cela ne correspond pas à l'usage du lecteur. Dans ce cas, il s'agit d'un lecteur superficiel.
Par ailleurs, la qualité du journal peut également souffrir de ses liens avec les sphères économiques et politiques. Il est ainsi souvent reproché aux journaux français d'être dépendants des grands groupes économiques auxquels ils appartiennent. Le Figaro vis-à-vis du groupe Dassault, par exemple, ou Libération vis-à-vis de son actionnaire principal, Édouard de Rothschild. Le modèle économique des journaux tchèques est relativement différent et explique, selon Barbora Osvaldova, leur relative indépendance à l'égard des pouvoirs économiques.
Ces journaux ou bien les managers de ces journaux vous diront qu'ils sont indépendants des pouvoirs économiques. Certains d'entre eux ont cette indépendance inscrite dans leur titre. Nous n'avons pas de grands journaux qui appartiendraient à l'État, au contraire de la télévision. Il existe en effet un prétendu secteur de télévision publique au sein duquel il y a quelques chaînes que nous finançons avec des fonds publics grâce à une redevance audiovisuelle. Ce n'est pas la façon dont les journaux fonctionnent. Après 1990, tous les titres de presse se sont émancipés de l'État et affirment être indépendants. Mada Afronta, par exemple, possède son propre groupe de presse, Mafra. Celui-ci édite également les Dove Novene. Et les autres grands titres appartiennent également à ce genre de groupe, mais ce sont des groupes de presse et non pas des groupes d'affaires. Rien de tout cela existe chez nous.
Il faut ajouter que le groupe Mafra est lui-même détenu par un groupe de presse allemand. La question de l'influence des partis politiques sur le contenu rédactionnel des journaux tchèques mérite également d'être posée. Pour Barbora Osvaldova, l'histoire de la presse tchèque explique les distances prises par la presse envers le monde politique après la révolution de velours. Elle prend l'exemple du quotidien Pravo, aujourd'hui propriété du groupe de presse Borgis. Pravo est l'héritier du journal Rudé Pravo, qui fut l'organe de presse officiel du Parti communiste tchécoslovaque.
Pravo by se vám asi bránilo, že oni jsou právě nezávislí a že...
Pravo se défend de toute dépendance vis-à-vis des partis politiques et en aucun cas ne vous dira soutenir le Parti social-démocrate. Cependant, le quotidien ne cache pas une affinité plutôt à gauche et on vous dira qu'il préfère privilégier des thématiques sociales. Pendant les deux guerres mondiales, les journaux ont appartenu aux partis politiques et ensuite, après 1948, il n'y avait que des journaux qui appartenaient soit concrètement à des partis politiques, soit à des organisations politiques souvent liées au Front National des Tchèques et des Slovaques. C'est pourquoi, après 1989, tous les journaux ont essayé d'être indépendants.
Takže po tom roce 90 vlastně všechny noviny se snažily být nezávislí.
Selon Reporters sans frontières, la République tchèque appartenait en 2011 au groupe des 15 pays qui respectaient le mieux la liberté de la presse.
La fin de cette émission en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, en podcast, sous forme d'articles ou également en streaming. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy!